Donc, il s'agit donc d'un midrash très très clair qui met en opposition qu'il y a bien une sagesse authentiquement chez les peuples, le Maharal est donc fondé à le dire, puisque le midrash le dit, mais inversement, il n'y a pas de Torah chez les peuples. Et nous voyons par conséquent que, comme dit le Maharal, cette sagesse supérieure à la Torah n'a pas de lien avec les peuples, puisqu'il n'y a pas de Torah chez les peuples. Je reprends le Maharal, je continue. Oui ?
Dans quel sens le mot Torah est utilisé ici ? Dans le sens enseignement de...
Dans le sens de la Torah Moshe dont parlait Rav Ashkenazi hier. La Torah donnée par Moïse à Israël.
Dans la précision du Maharal, Chochma Eliona. Il y a aussi un niveau de Chochma dans la Torah, mais elle est Chochma Eliona Eloki, opposée à Chochma Enoshi de Yavan.
Velochar. Oui, pardon.
Ça, c'est ironique ce que tu dis.
Alors, il y a dans le. Dans le lorsque j'ai consulté, effectivement. Donc,
c'est mauvais pour la galousse.
J'ai consulté toutes les références que donne le Maharal. Et effectivement, dans les explications de le Maharal, on continue, le verset continue, qu'il n'y a pas de prophétie. Et donc, le Midrash explique. S'agit-il des vrais prophètes ou des faux prophètes ? D'ailleurs, même les vrais prophètes n'entendront pas, il n'y aura pas de prophétie chez les goyim. Donc, effectivement, le problème de savoir comment la Torah peut être véritablement incarnée ou vécue en dehors est un autre problème, et pourtant, c'est ce que nous devons faire. Tant que nous sommes dans le galus.
Mais pour aller dans le sens de ce que dit Michel, bon, ça c'est un drache que tu as dit. On pourrait lire aussi comme ça, Malka Vesarea Bagoim en Torah, même pour les juifs qui sont chez les goyim. Non, il y a la notion de Tzimtzum, Mikdash Mea, de la même manière que c'est un drache dans la Galilée, c'est Mikdash Mea, le coup est changé en Resh, Beta Midrash et Beta Mikdash, vous voyez ce que je veux dire. Et de la même manière, la Torah qu'il y a chez les Juifs dans la Galoute, c'est la Torah d'Eretz Israël qui est en Galoute. Mais elle n'est pas la Torah des pays où nous vivons, elle est la Torah d'Eretz Israël qui est en Galoute. C'est la Torah d'Eretz Israël, mais en Galoute. Je pense que c'est clair. Donc,
j'ajouterais d'ailleurs que nous vivons d'ailleurs en exil, nous vivons en Galoute, selon le rythme de vie de l'année juive. Toutes les fêtes, nous les fêtons selon l'année juive d'Eretz Israël, la prière pour la pluie que nous faisons, par exemple, en automne, c'est la prière pour la pluie d'Eretz Israël. Ça nous casse les pieds profondément qui peuvent en France, au moment où nous faisons la prière. Donc tout est dirigé, et d'ailleurs nous savons que nous profitons, Khoutz la'aretz, uniquement, j'allais dire, des shiraïm, des restes de la pluie qui tombent en Eretz Israël. Toute la Torah que nous vivons en dehors d'Israël, d'où les difficultés souvent, nous la vivons sur le rythme cosmique d'Eretz Israël. Tout l'ancien de M. Gordin, en particulier, était basé là-dessus, que tout l'exil doit être vécu en fonction de la Géoula, de la libération, et non pas en implantation en exil, mais toujours en fonction, dans une vision de dépaysement. Nous sommes dépaysés, notre pays c'est Israël, mais il y a un travail à faire en galoute, mais en fonction du retour en Eretz Israël.
Oui, il a mangé du poisson du Kinneret. Bien.
Et une autre question, oui ? On prophétisait en terre d'Israël.
Je peux répondre.
Oui.
Ceci est enseigné dans le Kuzari de Judas Lévi. Il a posé la question en disant qu'il n'y a de prophétie que concernant Eretz Israël. Même les prophètes qui ont prophétisé en dehors d'Eretz Israël n'ont prophétisé que par rapport à Eretz Israël et ils venaient d'Eretz Israël ou ils allaient en Eretz Israël. En particulier, il l'enseigne pour Ézéchiel qui a prophétisé à Babel, mais il est exilé d'Eretz Israël et il ne parle que d'Eretz Israël, et surtout Moshe Rabbeinu en Égypte qui ne parle que d'Eretz Israël depuis le début. Il y a un chidouche là que je voudrais un peu pour détendre. Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est Eretz Israël. Rashi, regardez tout de suite Rashi. La preuve, c'est que Rashi explique pourquoi ça commence à Bereshit, parce qu'on va nous contester Eretz Israël. Donc dans le verset, ça veut dire Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, que c'est. Vous savez qu'en hébreu, pour dire Eretz Israël, on dit Eretz. D'une certaine manière, sur la Arête, c'est déjà Shamaï. En dehors des Rêtes Israël, on est déjà céleste, sans aucun lien avec la terre.
Donc, il y a bien une sagesse chez les peuples, il n'y a pas de Torah chez les peuples. Je reprends donc à la fin de la citation de la Gemara, « Velochar hamalchus hem hayevonim lohoyu misnagdim le Yisroel ki im be toirosam. » C'est pourquoi ce peuple, à savoir les Grecs, ne s'opposait à Israël que sur le plan de leur Torah. Ou comme chez Isboer Inyanze, comme cela est expliqué. Vezé, chez Ro Daniel, Malchus Ashlishi Hazé, chez Udomé le Nomer. Et c'est pour cela que Daniel a vu ce troisième empire sous l'apparence d'un léopard. Donc, si vous voulez, là, il y aura une argumentation assez fine. Donc, rappelons simplement, effectivement, il y a sagesse. Chez les Grecs. Il y a Torah chez Israël. Il n'y a pas de Torah dans les peuples. Mais, vous voyez qu'il y a une ambiguïté, parce qu'en général, nous, lorsqu'on parle de la Torah, on parle de la Chokhma. Il y a donc au moins une ambiguïté. Et cette ambiguïté, vous allez le voir, va très loin. Le Maharal va montrer pourquoi on a comparé ce troisième peuple, c'est-à-dire dans la vision de Daniel, pourquoi c'est le léopard qui est choisi, et non pas un autre animal, pour définir la Grèce, c'est-à-dire le pays de la sagesse, c'est le léopard qui aura des qualités qu'on va retrouver à la fois chez les intellectuels et chez Israël. Et c'est là dans des textes qu'il faudra suivre attentivement. Donc pourquoi le léopard ? Qui zos hachayo, qui az payoser ? Car cet animal, nous dit le Maharal, il est az. Alors, az, on a l'habitude de traduire apparemment par fort. Aïn, zain, fort. Mais en réalité, il y a beaucoup de mots pour dire fort en hébreu. Il y a gibor, il y a chazak, etc. Il y a beaucoup d'adjectifs. Donc, sachons que az, en disant fort, il faut savoir dans quel sens. On dit qu'un gars est fort en thème, ou on dit qu'il est fort en judo. C'est peut-être pas la même force dont il s'agit. On dit c'est très fort ce qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire fort ? Et nous allons donc garder le mot fort en attendant, mais en sachant que ce n'est pas la traduction adéquate du terme, puisque le Maharal va nous montrer par des tests qu'est-ce que ça veut dire az. Donc on l'a comparé au léopard, car le léopard est très fort, entre guillemets, az. Comme au Shiomru, comme cela a été dit dans le Pirkei Avos. Pirkei Avos, chapitre 5, Mishnah 20, Heve az. Kanomer, soit az de nouveau, fort, comme le léopard. Donc ici nous avons bien le mot az et le mot nomer, fort et léopard, l'un à côté de l'autre, soit fort comme le léopard. Évidemment, si l'on regardait la suite de la citation du Pirkei Avos, il continue « vekal kanesher » est rapide comme l'aigle, « rotz katsvi » léger, pardon, comme l'aigle, « rotz katsvi » rapide comme le cerf, « vegibor kohari » est fort comme le lion. Par conséquent, on voit bien que ce az ne peut pas signifier la même chose que gibor. Puisque dans le même texte, on te dit soit az comme le léopard et soit gibor comme le lion.
Gibor, c'est fort physique, en fait.
Par conséquent, nous voyons déjà que az n'est pas gibor. Que az est fort, mais comment ? Alors, le Maharal continue. Nous savons d'une part, donc, que le léopard est az. Puisque c'est écrit donc dans la Mishnah, Heve Az Kanomer, soit fort comme le léopard. Vezo Samida, qui Shoichis El Asher Hu Mochon El Achokma. Et cette qualité, ce type de force, eh bien, il se rapporte à celui qui est porté à la sagesse. Alors, le Maharal va montrer que cette qualité qu'on appelle Az, ce type de force, c'est quelque chose qui est spécifiquement le propre de ceux qui ont le désir de s'occuper de la sagesse, c'est-à-dire de faire une étude intellectuelle pour l'acquisition d'une sagesse. Comment le savons-nous ? Eh bien, le Maharal cite un autre enseignement, du Pirkei Avos, toujours, le chapitre 2, Mishnah 5, « Lo ha-baishon lomer ». le timide n'apprendra pas. Donc, ici, fort, c'est le contraire de timide. Ce que Maharal nous dit, celui qui est Baishan, timide, n'apprendra pas. Celui qui a Ahaz est celui qui a la capacité d'apprendre. Par conséquent, c'est que Ahaz, par certains aspects, est l'opposé de Baishan. Donc, si Baishan c'est timide, on peut dire que Ahaz c'est hardi, téméraire, courageux, audacieux, effronté même. Il y a donc une certaine violence. Et on comprend d'ailleurs que lorsqu'on te dit, la Mishnah précédente dit, soit Ahaz Kanemer, soit fort comme le léopard, et cela est la suite du verset, n'est-ce pas, est léger, etc., etc. C'est aussi pour accomplir la volonté de Dieu, on dit les qualités. Pour commencer, il faut se lever de bonne heure avec vigueur, avec violence, n'est-ce pas, il faut démarrer en trombe, si je puis dire. Eh bien, donc, il y a une certaine violence qui est inscrite là-dedans. Il ne faut pas être timide. Il faut oser, il faut foncer. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est le Maharal. Le Maharal le cite, et je vous renvoie au Derech Haïm, son commentaire donc, sur le Pirkei Avos. Nous n'avons pas le temps de prendre tous les textes, il faudrait des heures et des heures. En tout cas, dans son explication du mot Ahaz, qui n'est pas clair, le Ahaz tout seul, on ne sait pas si c'est un nombre de fort. Le Maharal nous dit, c'est l'opposé de
il y a toute une série de sources dans la Gemara et dans le Midrash à propos du verset Hachem oz le amoïten Hachem oz le amoïten que Hachem oz le amoïten c'est Torah. Donc Raz et Torah sont reliés comme dans l'explication du Maharal. Oui, c'est ça. Puisque Baishan, c'est l'Amen.
C'est celui qui n'apprend pas.
C'est celui qui n'apprend pas.
Donc, Velo à Baishan, celui qui est timide n'apprendra pas. Velo à Midas Israël dit Azus. C'est pourquoi la vertu propre d'Israël, c'est Azus, c'est la qualité de Az. Azus, la force qui est celle de celui qui est Az. Que Moshiomro Bama Serta Beitza. Comme nous avons un enseignement donc dans la Gemara de Beitza, chapitre 25b. Quel est cet enseignement? Tono Mishmei de Rabbi Meir. On a enseigné au nom de Rabbi Meir. Mipnemo nos notoire le Israël. Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée à Israël? Mipnei Shehen Azin. La Torah a été donnée à Israël parce qu'ils sont Azin. Nous traduisons pour l'instant encore provisoirement fort. Parce qu'ils sont forts. La Gemara continue. Tono, je reviendrai tout à l'heure, Tono de Bey Rabbi Ishmael, on a enseigné dans l'école de Rabbi Ishmael, il y a un verset dans Deutéronome, chapitre 33, verset 2, Mi mino eish dos lomo, que Dieu avait à sa droite une loi de feu pour eux. Alors nous avons donc Dos, la loi, et Eish, le feu. Il s'agit de la Torah. Alors, de quoi s'agit-il? La Gemara continue, nous y reviendrons. Omar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, Reuyin Halalu, Shesin, Reuyin Halalu, Shesino Sen Lohem Das Eish. Ceci, Israël, mérite que leur soit donnée une loi de feu. C'est-à-dire que Israël, ayant cette qualité, ils sont Az, ils ont cette vertu que nous commençons à cerner un petit peu, c'est-à-dire ils ont cette possibilité de ne pas, ils ne sont pas timides, ils ont cette audace, cette constance qui leur permet d'étudier, c'est pour ça qu'on peut leur donner une loi qui est une loi qui a la qualité du feu. Et nous allons voir la Gemara va définir ce que c'est que le feu. Omar, Ike de Omre, d'autres ont dit, Dateyem shel Eilu Eish, la loi Israël, leur loi, c'est du feu. Pourquoi? Chez Ilmolé, Loinosno, Toirole, Israël, car si la Torah n'avait pas été donnée à Israël, Ein, Kol, Uma, Velushon, Cholin, Lahamot, Bifnehem. Aucun peuple, aucune langue n'aurait pu subsister devant eux. Alors là, évidemment, nous avons une idée apparemment nouvelle, mais qui se rattache. Ça veut dire qu'Israël a cette qualité de Azus, de force violente. Et si la Torah ne leur avait pas été donnée, s'ils n'avaient pas la Torah pour, comment dirais-je, pour que cette vertu se bloque sur la Torah, pour que cette qualité a un lieu sur lequel s'investir, le mot le chercher. S'ils ne peuvent pas investir leur azout sur la Torah, eh bien leur azout, souvenez-vous, âme que chez Oreb, comment est-ce qu'Israël est défini, peuple à la nuque froide, pas peuple à la nuque dure, eh bien s'ils n'avaient pas la Torah, eh bien cette violence se traduirait autrement, et je n'ai pas besoin de faire allusion à ce que les propagandes, aussi bien philosémites qu'antisémites, nous parlent du ferment. Alors mettez tout ce que vous voulez, capitaliste, communiste, révolution, etc., les juifs partout. Le juif qui sort de la Torah utilise sa force pour foutre la pagaille dans la société, souvent en bien d'ailleurs, mais en tout cas pour s'opposer. Et effectivement, si tous les juifs, si tout Israël n'avait pas la Torah et utilisait cette violence, eh bien, ça serait au niveau de la violence matérielle, une lutte perpétuelle entre Israël et les nations. Par conséquent, la Torah est là, qui va leur permettre de canaliser cette force pour quelque chose de noble, c'est-à-dire l'étude et l'application de la Torah Elohim, de la Torah divine. Donc vous voyez de nouveau ambiguïté. D'une part, on nous dit qu'il s'agit que Azout, c'est une force qui est celle qui est nécessaire pour étudier. D'autres, et comme Israël possède naturellement cette qualité, on peut leur donner la Torah, ils sont les seuls qui peuvent l'avoir. Mais s'ils n'avaient pas eu, qu'est-ce qui serait arrivé? Donc ambiguïté de cette force, si elle n'est pas canalisée par la Torah, ça donne la pire des matérialismes. Par contre, avec la Torah...
Anarchisme.
Par contre, avec la Torah. Et alors, je vais terminer, si vous voulez, ensuite on posera les questions, la ligne de Gemara qui est « Ve Hayinu » de Omar, Rabbi Shimon ben Lakish, et ceci est en accord avec ce qu'a enseigné Reish Lakish, « Sholosh Azin Hem Israël ve Umos » etc. Alors, la Gemara continue en citant, il y a trois qui sont Az, qui sont forts. C'est d'une part Israël, parmi les nations, et la Gemara continue, le chien parmi les chayotes, le coq parmi la volaille, les oifos, et d'autres ajoutent encore deux autres catégories, l'un dans le petit bétail et l'autre parmi les arbres. Donc, il est intéressant, si on se reporte au Rashi, sur la Gemara elle-même, Rashi explique Azin. Il dit, Rashi, Azin, c'est Toshim de Hinotsar. Et alors, il ajoute le mot en français. Il donne un large.
Et alors, nous avons la traduction du mot.
Quel mot ? Il va dire.
Rashi nous dit, sur cette Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Azin, dans ce contexte du Talmud? Eh bien, Azin, c'est Kachim, le Hinotsar, c'est difficile à être vaincu, et il ajoute, endurant, Andrish Belaz, endurant, en français. Vous savez que Rashi donne souvent des gloses en caractère hébraïque. Donc nous avons cette double idée, Az, c'est à la fois ce qui est entreprenant, mais ce qui est entreprenant de façon durable. Bon, donc, le mot « az », nous l'avons maintenant éclairci. Qu'est-ce que ça veut dire, soit « az », soit « fort » comme « léopard » ? C'est-à-dire, soit à la fois « hardi », « téméraire », mais soit « hardi » et « téméraire » avec « acharnement ». On pourrait traduire peut-être, je ne sais pas si Robert sera d'accord, « audacieux » avec « acharnement ».
Avec d'ailleurs la nuance que tu as dit tout à l'heure, le risque d'être effronté, insolent.
Oui, c'est ça. Enfin, non, mais dans la qualité, la hase entre qualité, ce que le maral réclame comme qualité, oui. Ça serait d'être audacieux avec acharnement.
En tout cas, tout ce que tu viens de dire là, si me permets une phrase de parenthèse, éclaire peut-être le mot la hase que tu viens de citer. Le la hase, d'après le verset Betet, Israël, Ménitraïm, Betiarako, Mer, Mouloès.
Oui.
On traduit habituellement dans les Bibles en français d'un peuple barbare mais ça veut dire incapable d'être intellectuel. Lo'av.
On traduit aussi pour l'Achen Avodazara, mais ça a été évidemment démenti par les modernes parce que ça les gêne.
C'est lié parce qu'il faut être un peu siphonné pour être Avodazara.
Est-ce qu'il y a un rapport entre les mots Az, force et Az, les moutons?
Alors effectivement, justement, dans la Gomorrhe, la suite, si je peux vous la citer, trois sont forts parmi les peuples. Il y a donc Israël parmi les nations. Et vous voyez que Kelev Bachayos, ben, le chien, ce n'est pas l'animal le plus fort, n'est-ce pas? De même que dans les bêtes, c'est le lion, le roi des animaux. Alors, Gibor Karié, ce n'est pas le léopard. Et on nous dit donc également Tarnegol de Oifos, Veyeshomrim af Ez Babehemo Dako. Veyeshomrim af Tzolof de Ilonot. Tzolof, c'est le capri. Bon. Enfin, ça, c'est un texte que nous n'étudions pas en lui-même, avec la citation. Simplement, donc il a voulu éclairer, je crois, une chose qui est extrêmement importante pour nous, c'est-à-dire que la qualité nécessaire pour la Chochma et pour la Torah, c'est la même. Puisque Daniel a vu la Grèce sous forme de léopard, et que le léopard est Az. Az, Heve Az Kenemer. Pour expliquer ce que Az, on nous explique que c'est le contraire de Baishan, le contraire de Timid. Et en même temps, on nous cite tout un enseignement, que Israël a pu recevoir la Torah parce qu'ils avaient la Azus. Et que s'ils n'avaient pas eu la Torah, eh bien, ça aurait été terrible. Mais par contre, puisqu'ils avaient la Azus, ils méritaient de recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on dit? Trois, etc., sont forts, Israël parmi les nations. Donc nous avons cerné là. Et l'ambiguïté demeure, plus ambiguë que jamais. Les Grecs ont une sagesse. Ils veulent la Torah, on dit ah non. Il n'y a pas de Torah chez les Grecs. Pourtant, la Torah, c'est une sagesse. Quelle est la qualité pour que les Grecs soient capables, et ils ont la sagesse. Et pourquoi ils l'ont? Parce qu'ils sont, ils ont la qualité nécessaire pour cela. La qualité, c'est d'être âge. Mais cette qualité, c'est la même qu'il faut à Israël pour avoir la Torah. Donc, vous voyez que le conflit est effectivement très, très clair. S'il y a des questions sur le texte lui-même, pour le fond, nous en parlerons quand nous aurons fini le texte. S'il y a des questions sur le texte jusqu'à présent, j'essaierai d'y répondre. Sinon, nous continuons l'étude de la Gemara. L'étude du Mimara. Que c'est clair pour l'exposé, en tout cas, de ce texte de Gomorrhe. De la Gomorrhe. Le Mara ou la Gomorrhe? Ah mais je vais continuer là, le Mara. J'ai pas encore.
Je demande de reprendre les trois dernières lignes.
Mais je les ai pas encore lues. Je les ai pas encore lues. Je ne peux pas les reprendre, je vais les prendre. Alors donc, nous continuons.
On puisse les comprendre.
Oui.
Il dit que les Grecs ne voulaient pas qu'il y ait une Chochma soit plus élevée que la Chochma de l'homme.
Oui.
Or, l'historien que vous avez exposé
je m'excuse, je n'ai pas entendu la question.
L'historien a montré que les Grecs ne pouvaient pas avoir une connaissance de la Torah.
Historiquement. Oui. Historiquement.
Effectivement, le Midrash nous dit, si quelqu'un te dit qu'il y a de la Torah, et le peuple ne le croit pas. Nous venons de voir cela. Il n'y a pas de Torah. Maintenant, que les Grecs veulent la Torah, nous allons voir plus loin, que les Grecs veulent la Torah. C'est moi le Maharal dit, ils ne peuvent pas y accéder. Ils voudraient bien, mais ils ne peuvent pas.
C'est pas exactement la question. Si tu permets, sans quelques phrases. D'ailleurs, je reviendrai sur ce problème à la table ronde dimanche après-midi. Là, il y a un point de méthode qui nous gêne. Il faudra qu'on élabore une formule de rassemblement de tous les étudiants de tous les cours pour arriver à saisir le sujet, changer d'horaire, je ne sais pas, la prochaine fois, nous verrons ça après. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la méthode des historiens lorsqu'ils parlent de ce problème, et en ce sens que les historiens travaillent sur des documents qui sont des traces et qu'ils ignorent par méthode tout ce qui est dans la mémoire des peuples concernés. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et en particulier, l'expérience nous montre que le reste dans les Dénisotes, c'est-à-dire dans les endroits où les historiens trouvent leurs documents, que les choses les plus paradoxales, les plus marginales, les plus fautives, les plus anormales, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Prenez par exemple
et par conséquent, il parle de choses marginales. Il bâtit tout un système d'interprétation et d'explication sur une fausse réalité historique. Et je m'oppose à ce qu'a dit le professeur lundi soir, Ménez, qui a fait un exposé magistral d'ailleurs. Ses qualités de professeur ne sont pas du tout en jeu, mais c'est le principe même de la méthode universitaire. D'autre part, il était gêné par un problème prodomo, c'est un juif complètement assimilé à la culture universitaire. Vous avez senti cela, ceux qui ont assisté à la conférence, il fallait donc pas être trop hâle et trop méchant ce soir-là. C'est ceci, c'est que... je vous donne un exemple. Essayez de mettre en parenthèse, de faire table rase de tout ce que vous savez de façon intime, personnelle, vécue, de ce qu'est réellement la tradition juive, quelle que soit la nuance par laquelle on se rattache. Essayez de faire un exposé objectif de ce qu'est la pensée des juifs contemporains à travers les revues qui parlent du judaïsme ou d'Israël. Il n'y a que les choses marginales, contingentes, éphémères, ch'touillotes. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, si dans 2000 ans, un historien va nous bâtir ce qu'était la société juive israélienne de notre temps, il va dire des choses de bonne foi, mais des choses absolument fausses. Est-ce que c'est suffisamment clair? J'aurais à mettre au point ce point de méthode dimanche après-midi en disant, je parle pour moi, mais enfin vous comprenez quel est le... Je peux citer mon expérience, en cela qu'on ne peut pas aborder ces problèmes de confrontation uniquement par le point de vue de la méthode universitaire. Il y a aussi le point de vue de la tradition dont il s'agit. Je me souviens, lorsque j'ai commencé mes études d'ethnologie, eh bien, nous étions initiés, d'ailleurs, avec Lévi-Strauss soi-même, nous étions initiés aux méthodes d'exploration d'une société dite primitive. Et alors, il nous avait raconté l'anecdote suivante. Je m'excuse de prendre un peu de temps, mais c'est pour éclairer le problème. Et ensuite, j'arriverai à dire que ce qu'il a dit est faux. Les Grecs arrivés en Judée ont connu ce qu'est représenté non seulement la Torah, mais les hommes de la Torah, et tout ce que les sources que nous avons citées depuis le début, le Rav Utner déjà, qui est disciple du Maharal lui-même, il y a eu réellement un parti pris, une décision, après cette rencontre et ce diagnostic qu'on avait, l'interlocuteur valable du point de vue du projet impérialiste grec, comme dit le Maharal ici, déconnecter les Judéens de leur Torah et de s'approprier cette Torah au niveau humaniste.
On verra demain.
Très rapidement cette anecdote, un explorateur qui débarque, je ne sais plus dans quelle île du Pacifique, et puis il s'amène avec ses verroteries, avec ses lampions, pour intéresser les palabres du public habillé tout nu, comme les nègres de l'endroit, les noirs de l'endroit. Et puis, il essaye de les séduire, comme on séduit des enfants, des gamins, en leur disant, eh ben, nous allons faire ami-ami, et puis il voulait connaître les secrets de la sagesse de la tribu, enfin de la pensée de la tribu. Et puis après son laus bien préparé au musée de l'homme à Paris pour arriver là-bas, il s'entend dire par un jeune homme qui se lève et qui avait été envoyé par le chef de la tribu pour se préparer à Oxford, dans un anglais excellent, en d'autres termes, vous êtes un ethnologue. Alors, les historiens nous parlent comme si nous étions une société primitive dont ils sont les ethnologues. Et sur quoi ils travaillent? Sur des traces de documents au 13e degré qui ne signifient rien pour une tradition. Vous comprenez ce que j'essaie de dire?
Mais là,
pourquoi
il a dit tout ce qu'il a fait à diagnostiquer les mariages
mixtes? Oui, et dans ce cas, je suppose. Et encore plus, bon, toi. Je rends la parole au Maharal.
Donc le Maharal conclut cet exposé de ce texte de la Gomorrah de Beitzeu que nous venons de voir. Peirouche, l'explication donc est Bishvil, Sheesh Lohem HaTorah. Étant donné que eux, que Israël a la Torah, au Bishvil Zé, et pour cela, dans Tseyem Shel Eilu Hu Eish, leur loi, la loi d'Israël, c'est du feu. Ashero Eish Yesh Lo HaTokef. Car le feu a de l'impétuosité. Vehu Az. Et le feu est Az, est fort, est impétueux. Vehlocha Israël Hem Azim Behumos. C'est pourquoi Israël est Azim, est impétueux et fort parmi les peuples. Donc c'est la conclusion du mal. Je continue. Veda.
Torah, c'est la vérité absolue, c'est du feu, seul Israël était capable d'en être le porteur.
Porte-feu et non pas porte-fait.
Très bien, porte-feu.
Mais malheureusement, souvent porte-fait.
C'est pourquoi c'est le Taharut, le rival que nous avons trouvé.
C'est pour ça que...
Parce qu'il n'est que Yavan et pas Israël, c'est-à-dire parce qu'il n'a qu'une des dimensions, de ces quatre dimensions dont Michel a parlé tout à l'heure, et qu'il n'a pas le Atem Krui Madame que nous allons voir par la suite.
Je n'ai pas eu le temps de citer.
Pourquoi on va arriver par la suite. Cette unité récapitulative du génie humain dans sa totalité, alors que chaque manière d'être homme emporte avec elle de façon géniale, mais partielle, un aspect de ces dimensions de l'identité de la personne.
On y reviendra. Alors, les Romains, effectivement, mais on y viendra en montrant qu'il serait là en plus cet aspect nisdal séparé, c'est-à-dire tselem, la forme, la kedusha, qui fait la différence. Il y a quelque chose d'apparemment scandaleux dans ce que Maharal va dire. Il fait une différence, c'est-à-dire de nature radicale entre Israël et les nations. Mais attendons-nous, Israël, c'est le peuple qui, dans le projet de Dieu, réussit à être celui qui possède ses qualités. C'est a posteriori que nous, qui nous prétendons d'Israël, nous disons cela. Parce que nous disons, nous sommes le peuple élu, et ça ne veut rien dire. Ça devient du racisme.
Il est souvent en ballotage.
C'est-à-dire, il fait une différence de nature entre Israël et les peuples. Vous avez vu dans le Dalet et le Yod, le Hé composé d'un Dalet et d'un Yod, déjà. Il y a donc une différence radicale. Cette différence tient au fait qu'il y a un peuple qui a accepté, qui a réussi à s'élever au niveau de la Kedusha, d'avoir en plus des forces humaines, une force divine. C'est ce qu'il y a de divin en l'homme que Israël possède, Israël, c'est-à-dire le peuple qui réussit à devenir Israël. Alors je ferme cette parenthèse parce que nous reverrons ça plus en détail.
Juste une phrase sur ce point, lorsque les Romains sont rivaux d'Israël, ils le sont en grec, si vous remarquez, et pas en latin.
Si vous voulez, pour qu'il ne soit pas, si vous voulez, dangereux. Alors là, on dirait qu'il y a un virage. C'est où je vais utiliser un doctorat, où je vais utiliser d'atterrir chez Elo ou Roupèche. Et à la fin, au cas qu'Israël m'a dit au monde. Ce n'est pas à cause de la Torah, d'après ce qu'on
non.
voit ici. Au cas qu'Israël m'a dit au monde.
Oui.
Il y a tout un virage là.
Non, il y a ce double aspect. Il y a ce double aspect. D'une part, Israël a cette qualité. Comme l'enseigne souvent Rav Ashkenazi, le peuple qui a reçu la Torah existait déjà. Pour eux, la Torah a été proposée à toutes sortes de peuples. Le peuple qui était capable de prendre la Torah était celui qui avait un certain nombre de qualités. En particulier, Israël avait cette qualité de Azus. Il l'avait. Mais cette qualité de Azus, c'est ce qui lui permet d'avoir une Torah de feu et de ne pas mourir, de vivre avec cette Torah de feu auquel d'autres se brûleraient. Mais par ailleurs, s'ils n'avaient pas la Torah, il y a cette double idée, s'ils n'avaient pas la Torah, leur azus serait complètement
dévastatrice.
Il y a effectivement ce double aspect. Ils ont cette faculté, mais ça peut devenir azus ponim, ça peut devenir amke sheoref, ça peut devenir, n'est-ce pas, donc un défaut. Ce n'est qualité que grâce à la Torah. Est-ce que c'est clair?
Il y a un peuple.
Il y a un peuple, effectivement. Il y a un peuple qui par la Torah, va réaliser le royaume d'Israël, ce que le Maharal appelle le Malkout HaMashiach, c'est-à-dire Israël réalisé complètement. Nous sommes en train de devenir Israël vrai.
En d'autres termes, Jacob devient Israël, mais ce n'est que Jacob qui devient Israël. Jacob existe déjà.
Et Jacob doit avoir Az pour pouvoir, avec la Torah, devenir Israël.
Parce qu'on peut unir ça avec ma Torah,
Mimech Yetzé. Mimech Yetzé. Ken, Yafé. C'est tout à fait ça. Ken. Zoa Azut Sheyesh Ba.
Veda qui a Romer Hu Mispael. Et sache que la matière est influençable. la matière peut être modelée, peut être travaillée. Velohar benéodom, shem baalei chomer, einom chazim vekoshim. Et c'est pourquoi les êtres humains en général, qui sont des êtres de matière, mais de matière seulement, ne sont pas azim vekoshim, ne sont pas forts, n'ont pas cette endurance et cette dureté. Aval Israël. Chez Nosno Lohem à Torah, mais Israël à qui la Torah a été donnée, Hem Azim Vekoshim le Gamre, sont complètement Azim Vekoshim, complètement hardi, endurant et dur entièrement. Donc différence de nature entre Israël et les autres hommes par rapport aux qualités. Vedovorze, dit Arnou, Vekomamekomos, et le Maharal renvoie pour cela, vous avez en bas les références dans cette édition, donc ce point, il ne le développe pas ici, il dit, ça a été, il l'a expliqué par ailleurs. Velochar, roi Daniel, Umozos, Shehi Muchenes et la Chokma, de Yoser Mishahumos. C'est pourquoi Daniel a vu ce peuple, ce royaume, qui a un lien avec la sagesse plus grand que tous les autres peuples, roi Osso Nomer, Shehu a Yoser Az. Il a vu ce peuple dans sa vision sous forme de léopard, car le léopard, il est très fort.
Il s'agit de la Grèce.
Il s'agit de la Grèce.
Oui.
Ou le Fichar à Oumo Azos, et c'est pourquoi ce peuple, les Grecs, Bikshu, voulait, Sheir Savu Lohem, Chachomim HaTorah Yavanis. Ils souhaitaient qu'on leur écrive la Torah en grec. Que mot, chez Mefourage, dans Megillah, comme c'est expliqué dans la Megillah 9.2. Donc voyez.
Dans la
Maseret, oui, dans Megillah 9.2. La Gemara Megillah 9.2. Donc vous voyez, l'ambiguïté va devenir encore plus grande. Voilà que les Grecs, qui pourtant, on nous a dit, ils n'ont pas part à la Torah, mais ils souhaitent qu'on traduise la Torah en grec. Et, comme vous allez le voir, cela a été permis. Af ki bevadai ein le uma hazos chelek batoira. Bien que ce peuple n'a pas part, chelek, ce mot chelek est très important, puisque souvenez-vous, lorsque les Grecs demandaient aux Hébreux, inscrivez sur la corne d'un bœuf, chez Elohim Chelek, que vous n'avez pas part au Dieu d'Israël. Et le Maharal dit, bien qu'eux n'ont pas de Chelek à la Torah, ils n'ont pas de part à la Torah, que Moshe Marnou, comme nous l'avons dit plus haut, ou Mikol Mokom, Bikshu, Lirsov, Lohem, à Torah, Belushon, chez Lohem. Et pourtant, ils voulaient que l'on écrive la Torah dans la langue qui est la leur, Zemore, chez Achokma, Shoyer Lohem de Yoser Minchar Haumot. De nouveau le compliment, et ceci montre que la sagesse leur appartient, enfin, est rattachée à eux plus qu'à tous les autres peuples. Et c'est pourquoi Dorshuzal, nos sages ont enseigné. Alors, il y a une citation de la Genèse, Yaft Elokim le Yefes de Yishkon de Ohole Shem. Que les linguistes vous diront que le mot yaft vient du verbe poso, qui signifie ouvrir, c'est un hifil, et que ça voudrait dire mot à mot, si on traduisait, que Dieu élargisse pour Japhet, qu'il élargisse l'espace, qu'il agrandisse l'espace, c'est dans les bénédictions que Noé donne à ses fils, ou malédiction pour les uns, bénédiction pour les autres, qu'il agrandisse pour Japhet, et qu'il demeure dans les tentes de Shem. Nous allons voir que la Gemara, quand vous voyez le mot yaft, et le mot Yefet, vous voyez qu'en réalité, ce sont les mêmes lettres, ce sont absolument les mêmes mots. Alors, je vous rappelle simplement qui est Yafet. Noah a trois filles, Shem, Chom, Yafet. Shem va être l'ancêtre de la lignée qui va aboutir à Abraham, et Yefet a sept fils, le quatrième fils, c'est Yavon. Donc, lorsqu'on parle de Japhet, c'est le père de Yavan. Yafet, Yavan, nous avons donc ici au niveau des pères ce qui va représenter l'essence de la Grèce. Alors, le verset donc de la Genèse dit Yaft Elokim le Yefes. Et qu'il demeure dans les tentes de Shem. Alors, comment est-ce que ce verset de la Genèse 9.27 est expliqué dans la Gemara Megillah 9.2? Omar Rabbi Chaya bar Abba, Rabbi Chaya bar Abba a dit, Hayinu Tamo, Yirsif, Yat Elokim le Yefes. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'explication de ce qui est écrit Yat Elokim le Yefes? Yefioso Shel Yefes. Yehe Be'oholeshem. Que la beauté de Japhet soit dans les tentes de Shem. Fin de la citation de la Gemara. Que l'Omar, c'est-à-dire, nous reviendrons, Min Hayofi Shel Bene Yefes. À partir de la beauté des fils de Japhet, Zeulochon Yavani. Il s'agit de la beauté de la Grèce, c'est la langue grecque. Shihu Hayofe Yoser, qui est très belle. Voyez, de nouveau admiratif. La langue grecque, l'Alexandre Rachi, sur cette Gemara dit, n'est-ce pas, il s'agit de la langue de Japhet, qui est la plus belle des langues. Yehe Hatoro Beoholeshem, que, à part de cette langue, qui est la chose la plus belle chez les Grecs, eh bien que cela réside dans les tentes de Shem. Ki mutar lios ha Torah beloshon shelohem. Car il est permis que la Torah soit dans leur langue. Donc je m'arrête deux secondes pour que ce soit clair. Les Grecs ont demandé que l'on traduise la Torah en grec, parce qu'ils souhaitaient se rapprocher de la Torah, bien que nous sachions qu'ils n'ont pas de part intime, de chélek, dans la Torah. Et cela a été permis. Cela a été permis. C'est la seule langue dans laquelle le Talmud permet de traduire le. Et plus tard, si nous avons le temps, je citerai un enseignement qui vous montre qu'il y a quatre langues saintes qui sont l'hébreu, langue de révélation, disons.
De traduction.
Dans laquelle la révélation a pu se faire, qui sont l'hébreu, l'araméen, l'arabe. Et le latin, et que le grec est considéré par excellence comme la langue humaine, n'est pas une langue de révélation, en tout cas pas une langue sainte, comme l'est l'araméen. C'est la langue humaine par excellence, c'est la plus belle des langues, la langue du logos. La beauté des Grecs, ce n'est pas l'esthétique, la beauté, c'est leur langue, n'est-ce pas ? C'est phoné. La langue, c'est logos, qui étymologiquement signifie aussi, pas seulement la science, mais le discours, n'est-ce pas ? Le langage. Par les sages du Talmud. Leur critère, c'est ce verset que l'on voit.
Il faut dire que, à leur corps défendant, ça a été imposé, mais c'est permis puisqu'il y a ce verset.
Ça a pu être permis parce que ce verset en donnait la possibilité. Kimuta.
J'ai une question.
Oui, pardon.
On emploie souvent la langue grecque, le mot de beauté de la langue. Est-ce qu'au cours de ce séminaire, à un moment donné, on définira ce que ça veut dire par rapport à la grammaire, est-ce que ça veut dire le son est beau, ça veut dire que la construction grammaticale est belle, que c'est subjectif, la beauté d'une langue. Ça veut dire que l'arabe c'est très beau, que le hébreu c'est très beau, que le français c'est très beau. Est-ce que ça vient de quelque chose de...
Si tu permets, juste trois mots. De la même manière qu'on dit que l'hébreu de la Bible, c'est la Shona Kodesh. Ça ne veut pas dire littéralement langue sainte, mais la langue qui peut parler la sainteté, qui peut dire la sainteté. De la même manière ici, le cas particulier de la beauté du grec dans ses sources, c'est la langue qui a exprimé la beauté du monde. C'est la langue du beau, plus que la langue belle. Toutes les autres langues peuvent être belles d'après notre critère de goût esthétique. Et effectivement, par exemple, l'arabe est une très belle langue, l'hébreu aussi. Mais je pense que toute langue bien exprimée est une belle langue, d'ailleurs. Mais là, il y avait autre chose. C'est qu'ils ont trouvé le langage du beau et que cela s'exprime à travers leur catégorie de logos, de discours. Ce qui les a menés, d'ailleurs, au deuxième niveau, à exprimer le langage de l'apparence matérielle du monde, qui est le langage de la mathématique comme langage de tous les phénomènes du monde. Avant-hier, quelle
voilà, c'est ça, c'est pas parce que justement, les études contemporaines en éthique montrent que la catégorie de la langue exprime les catégories de la pensée. Donc, comment c'est possible de séparer?
Oui. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous aurons peut-être, mais rappelle-toi de la question pour vendredi et dimanche, peut-être. Simplement un mot pour préciser le point de cette pensée. Pour cela, il faut savoir que. Les catégories originelles de la pensée philosophique
dans le sens de Chokhma Enoshi, sagesse humaine, humaniste, le niveau de la sagesse grecque, sont toutes dans quelque système que ce soit. Fût-ce un système qui a été formulé dans une toute autre société qu'une société grecque, commence d'abord par les catégories de la langue grecque elle-même. Les catégories du jugement d'Aristote sont à la base de tous les systèmes de catégories du jugement à travers toute l'histoire de la logique, que, en particulier les grandes articulations, Kant ou Hamelin, qui est le dernier des grands, de ces grands systèmes. Il y a d'abord les catégories de la langue grecque elle-même. Il n'est pas du tout évident que les catégories de la langue hébraïque correspondent. En particulier, vous savez que énormément de règles de pensée laissent trace dans l'expression au niveau du discours. Par exemple, la fameuse règle du verbe conversif en hébreu qui fonde la conduite du repentir, conduite spirituelle que nous ne trouverons pas dans la pensée grecque, trace, il n'y a pas de verbe conversif dans la langue grecque, par exemple. Mais malgré tout, la question reste. C'est très différent le niveau de la pensée et le niveau de la langue. La langue, lorsqu'elle exprime le monde extérieur, elle est légitime et elle dit l'objectivité du monde extérieur dans son harmonie, dans sa beauté, dans sa structure profonde. Lorsque cette langue grecque va parler les choses de l'esprit, alors c'est là qu'il y a une distinction. La philosophie et la science étant deux niveaux différents. D'où cette ambivalence que Michel est en train d'analyser. D'un côté, on félicite. Mais de l'autre côté, on va condamner. Il y a un domaine légitime, un domaine illégitime. Nous ne sommes pas encore arrivés dans le texte à ce point.
On dit généralement, on dit pourquoi ? Parce que dans l'ensemble, parce que Philon d'Alexandre a écrit en grec. Si la langue grecque fait partie de ces quatre langues, si on veut, dans laquelle on peut traduire la Torah, dans ce cas, j'y reproche-t-on à Philon d'Alexandre en dehors.
Très bien. Je pense que on va y arriver.
Nous répondrons à votre question lorsque nous aurons vu la suite du texte, vous permettez, qui éclairera et facilitera la réponse. Si vous voulez bien, on va essayer quand même de faire les quelques paragraphes qui suivent, quitte à remettre à demain matin tout l'ensemble des problèmes qui se posent, parce que le fait d'avoir encore les 20 lignes qui suivent va nous donner l'ensemble des éléments pour cette problématique que nous sommes en train de voir. Alors, on va essayer. Il est midi 20, si vous m'accordez encore un quart d'heure pour essayer donc de lire au moins les quelques lignes qui suivent, et demain matin on commencera donc par débattre de tout cela. Vecholze, alors donc il aurait permis, donc on a accepté de traduire la Torah, car il est permis de traduire donc la Torah dans leur langue. Vecholze mipene sheyesh lohem hachokhma yoser misha'umot, parce que le Maharal donc le redit, parce qu'ils possèdent la sagesse plus que les autres nations. Vehakeiru Hazé Atzmo, Hoyo Goyrem, Shirotsu le Abet Mehem Hatorah. Et c'est cette proximité même qui a eu pour conséquence qu'ils ont voulu détruire.